Quand on s'est lancé, ils nous disaient, mais qu'est-ce qu'ils font, les gars, quoi? C'est con, ils étaient pas trop mal partis dans la vie. Parce qu'en fait, on a un enjeu avec le sirop diacone, c'est qu'il faut le démocratiser. Moi, mon petit dessert coup de cœur, justement, c'est la tarte au citron meringue, en vrai.
Antoine de Saint-Exupéry disait « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. » Moi, c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose. Bienvenue sur votre podcast. Bonjour à tous et revenus. Je vais refaire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. On va parler de bouffe un petit peu aujourd'hui. De toute façon, vous savez que j'adore ça. D'ailleurs, Clément, t'as mangé quoi ce midi?
J'ai mangé une salade. Écoute, c'était plutôt sain. Mister Garden.
Ok.
Base pâte, pousse d'épinards, un peu de poulet, des champignons, de la patate douce. Et voilà.
Ok, pas
c'est
mal.
Bien. Pas trop lourd.
Tu manges healthy en ce moment ou
j'essaye, ouais. Summer body, hein. Non, je rigole. Mais ouais, non, j'essaye de manger sain un peu. Ça dépend des midis. Parfois, il y a des craquages, mais il y a jamais de McDo ou de kebab, ça c'est sûr. Mais là, les petites salades avec l'été qui revient, le beau soleil, ouais, c'est toujours plus agréable pour l'après-midi. Je me sens moins lourd, quoi.
Parfait. Alors, vous connaissez déjà ce qu'a mangé mon invité à midi. Vous ne savez pas qui il est. Mais c'est pas grave, je vais le laisser se présenter tranquillement. Donc Clément Poyade de Yacon & Co, une alternative au sucre et une nouvelle façon de consommer des petites douceurs en dessert, en entrée, non, de dessert.
Ouais, dessert, entrée, plat salé, sucré, goûter.
Petit déjeuner.
Exactement, à tous les moments de la journée.
Je te laisse te présenter à nos auditeurs, Clément.
Ouais, carrément. Du coup, effectivement, donc Clément Poyade, j'ai 29 ans, je suis originaire d'Auvergne et très attaché à mon Auvergne natale. Voilà, fier de l'être, comme beaucoup d'Auvergnats, j'ai l'impression. Mais adopté par Paris, notamment, ça fait une petite dizaine d'années que je suis là. Et cofondateur de Yacon & Co, donc avec Thierry et Raffaella, où on démocratise, on va dire, un peu le sans sucre à travers un produit qui est assez exceptionnel, qui s'appelle le sirop de Yacon, qui est la meilleure alternative au sucre qui existe aujourd'hui sur le marché.
Okay.
Je vais pas spoiler, j'y reviendrai, j'imagine, un peu plus tard, mais en tout cas, c'est une boîte qu'on a lancée en mai 2021, qu'on a construit brique par brique, et qui est en train de bien décoller. Donc on est très content de tout ça.
Parfait. Bon, on va voyager, je pense, avec cet épisode. On va découvrir le Pérou,
exactement,
l'Amérique du Sud, New York.
Ouais.
Paris et revenir en Auvergne.
Le triangle d'or.
Ton Auvergne natale. Justement, alors, quand je t'ai contacté, on s'est croisé pour la première fois au CIRA.
Ouais.
C'était un festival international du pain, de la viennoiserie, c'était en début d'année.
Ouais.
Et j'avais écouté ton épisode avec François Allais dans Serial Entrepreneur. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée de ta part. Tu disais, je suis polyvalent, je n'ai jamais excellé ni en sport ni à l'école.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, quand tu m'as posé cette question et quand tu me l'as envoyé hier, du coup, j'y ai réfléchi un petit peu. Et en fait, je crois que la polyvalence vient de mon plus profond. En fait, je suis un gros curieux. Et qui dit curiosité dit que je me lasse un peu vite. Et donc, dès que j'entame quelque chose, on va dire que je vais pas jusqu'à la perfection. Je vais jusqu'à le faire assez bien pour m'éclater là-dedans.
Ouais.
Mais ensuite, j'ai envie d'aller découvrir des nouvelles choses. Que ce soit effectivement des sports, que ce soit des activités, des hobbies, des pays. Je suis un, on va dire, un épicurien un peu de la vie. J'aime vivre et j'essaye de découvrir un maximum de choses. Ce qui m'a emmené à beaucoup de polyvalence, au niveau pro notamment, aussi parce que je m'intéresse à beaucoup de choses.
Ouais.
Aujourd'hui, dans la boîte, c'est plutôt moi qui ai la fonction sales, commercial et levée de fonds. Mais je viens d'une école de communication, donc c'est des sujets qui me passionnent. Je ne fais pas encore assez de finances, mais tu vois, c'est le prochain un sujet qui m'intéresse.
Okay.
C'est vraiment de monter en compétence sur les chiffres, ouais. Surtout avec une boîte qui grossit, c'est de plus en plus important. Pareil pour les sports, j'ai commencé par du judo, après j'ai fait du tennis, après j'ai fait du foot. Et aussi, je m'adapte aussi à là où j'en suis dans ma vie, au lieu dans lequel je vis. Paris, ville un peu compliquée à la base pour faire du sport. Donc c'est là où je me suis mis un petit peu plus à la course à pied. Là, j'ai retrouvé un club de foot. Donc je suis revenu à mes amours d'enfance. J'ai retrouvé un club de foot où je joue le lundi et le vendredi. Du coup, voilà, what's next? Je sais les sports déjà que je veux faire. Je sais que j'aimerais faire de l'escalade. Je sais que j'aimerais faire du parapente.
Du paddle aussi, non?
Du paddle, je suis pas hyper fan du paddle.
T'es un entrepreneur parisien. Me dis pas que tu vas pas faire de paddle.
Ouais, mais pour moi, le paddle, c'est fait pour ceux qui savent pas jouer au tennis. ça va peut-être paraître un peu. Non, je rigole en vrai quand je dis ça. Mais en fait, pour jouer au paddle, si tu veux vraiment transpirer, moi, quand je fais du sport, je veux mettre une grosse suée. Et j'arrive pas à moins de jouer pendant 2h30-3h à me dire là j'ai les jambes coupées, j'ai qu'une envie, c'est de manger et aller me coucher. Donc je suis pas encore arrivé à ce niveau là peut-être que ça viendra quand je vieillirai un petit peu, mais pour l'instant, quitte à toucher une raquette, je préfère le faire avec une raquette de tennis.
Ouais, ok, mais je te présenterai Olivier Ramel, on en reparlera du paddle ensemble.
Écoute, figure-toi que j'ai essayé de m'inscrire à son club de paddle et je suis toujours en attente. Donc tu joues toi au paddle?
J'ai joué une fois, donc tu vois, j'ai pareil, mais je devais faire un paddle avec Olivier aussi.
Ouais.
Je lui dirai de te rajouter au groupe.
Très chaud. Et bah écoute, voilà, on a notre équipe.
Parfait. Et toi, quand tu parles de polyvalence, est-ce que c'est parce que tu savais que tu ne pouvais pas être excellent? Ou alors c'est juste parce que tu étais curieux, comme tu le disais?
C'est une bonne question. Alors, je sais pertinemment que je ne peux pas être excellent dans tous les domaines. Je pense que je commence à être très bon dans certains domaines, aussi avec l'âge, parce que même si je suis polyvalent, j'ai quand même des domaines d'expertise. Aujourd'hui, je sais que le commercial et la levée de fonds, le pitch, c'est des choses vraiment que je maîtrise. Alors, je peux encore me perfectionner, mais pour moi, polyvalence ne veut pas dire... ne veut pas dire en tout cas que tu excelles dans rien. Tu peux avoir 2-3 domaines d'expertise qui sont, on va dire, tes cœurs de métier. Mais par contre, ça ne t'empêche pas de ne pas te surspécialiser et plutôt d'aller picorer des choses à droite à gauche, et aussi ce qui te permet de monter en compétences dans ton cœur de métier. Moi, le fait d'avoir des connaissances en market, en com, ça m'aide pour le commercial. Pareil pour aller lever des fonds. Demain, le fait d'avoir des bases en finance, en RH, en data, ça m'aidera aussi pour le sales, parce que, et on y reviendra dans l'alimentation, en fait, moi, tout est connecté un peu, je pense. Le sales ne fonctionne pas tout seul. Le sales a besoin de toutes les fonctions support qui vivent autour de la boîte.
Pour mieux vendre son produit, évidemment.
Exactement. Ouais. Et donc, pour moi, un bon sales est aussi un sales, qui se soucie de ce qui se passe autour dans la boîte. C'est pas forcément la pierre angulaire de l'entreprise. Je veux éviter, plus mon équipe de sales grossira, je veux éviter, tu vois, la guéguerre entre le marketing et le sales, parce que tout ça fonctionne ensemble et on y reviendra une fois de plus. C'est comme l'alimentation. Si tu manges sans sucre, c'est pas pour faire zéro activité physique ou manger de la viande de bœuf tous les jours, matin, midi et soir. Il faut un peu conscientiser tout ça, prendre du recul et essayer de le faire de la meilleure des manières possibles, quoi.
Donc un homme polyvalent mais pas médiocre.
Ouais, en tout cas, après, qui je suis pour dire ça de moi, tu vois.
Qui on est pour dire tout ça.
Mais en tout cas j'aspire pas à la médiocrité, c'est pas un objectif de vie.
T'as toujours aimé les grands écarts dans ta vie.
Ouais.
Toi, t'es né ou t'as vécu du côté de Châtel-Montagne,
ouais,
je crois.
Ouais, exactement.
Ce petit village d'Auvergne de 10 000 habitants.
Non, 350.
350. Ah oui, donc il y avait vraiment pas grand monde. Châtel-Montagne, Paris, New York. Comment on passe d'une ville à l'autre? Comment on fait pour s'adapter?
Ouais, c'est pareil, sacré gouffre. Et ça rejoint aussi ma polyvalence. Je suis un homme qui aime profondément la nature et la campagne, parce que je viens de là, parce que quand j'étais petit, j'étais un enfant qui était épris de liberté.
Tu faisais quoi le week-end quand t'es petit? Tu jouais dans la nature?
On avait des potes qui venaient à la maison et on jouait dehors, peu importe. Quand il neigeait, on sortait les luges et on allait faire de la luge, parce que je vivais quand même un peu en montagne, on était à 800 mètres d'altitude. L'été, on avait un petit étang, donc on allait se baigner, après on allait se balader dans les bois, enfin, juste Ouais, vraiment enfance ultra libre, du coup, enfance épanouie. Mais par contre, très vite, j'ai senti que c'était pas l'endroit où je m'épanouirais d'un point de vue professionnel. Et donc, c'est pour ça que je suis parti très tôt de chez moi. Je suis parti à la fin du collège, d'abord dans un internat. Ouais. Alors, à Moulins-sur-Allier, hein, c'est pas non plus.
En sport-études ou non? C'était juste comme ça?
C'était une option sport, ouais. C'est pas un sport-études parce que j'étais pas spécialisé sur un sport. On revient à la polyvalence. mais c'était en fait une option où j'avais 10 heures de sport par semaine. Tous les soirs, en gros, quasiment, je faisais 2 heures de sport. Et ça comptait au bac.
Okay.
Et en terminale, pour le coup, je me spécialisais. C'était du volley, du VTT et de la natation. Et autant le sport-études n'est pas compté au bac, autant là, c'était au bac. Ensuite, effectivement, Clermont, Paris, New York. J'ai beaucoup appris dans chacune de ces expériences, des choses qui sont complètement différentes. Ça m'aide aussi un peu à me connaître moi-même. En fait, je pense que plus tu testes de choses, ouais, plus tu sais ce qui te correspond. Là, je sais que je suis à une phase de ma vie où je sais pas si Paris va me plaire encore très longtemps, parce que cet appel de la nature est un peu en train de, ouais, de revenir, même si je retourne souvent en Auvergne. Mais par contre, je sais que je retournerai pas à Châtel-Montagne. j'ai essayé de trouver un intermédiaire où je continue de m'épanouir au niveau pro. Mais par contre, bah, effectivement, si je veux sortir courir dans les bois, je sors courir dans les bois. Si je veux, je sais pas moi, effectivement, me mettre au parapente, je peux me mettre au parapente. En tout cas, le faire plus facilement.
Et tu savais déjà petit ce que tu voulais faire en fait ou pas? Parce que tu dis, je me sentais pas prêt à grandir aussi longtemps que possible à Châtel-Montagne. Mais parce que tu savais ce que tu voulais faire?
Non, je savais pas ce que je voulais faire, mais par contre, je crois que je savais au fond de moi que j'avais envie d'essayer de faire quelque chose d'un peu grand à mon échelle, tu vois. Je savais que pour être heureux, j'aurais envie de me dépasser. Et donc, pour se dépasser, alors je dis pas que c'est impossible à Châtel-Montagne, mais en tout cas professionnellement, c'est quand même plus compliqué. Cette volonté de faire des choses grandes m'a amené effectivement à aller tester des nouveaux environnements m'a amené à Paris, du coup, au milieu de ma fac, où là, j'ai senti que je pourrais aller me challenger moi-même et que je pourrais, on va dire, atteindre les objectifs que je me mets. Rien n'était précis, je ne savais pas exactement quel métier je voulais faire, je ne savais pas exactement dans quel secteur d'activité je voulais aller. Mais par contre, je savais que s'il y avait une opportunité à saisir, je serais là pour la saisir. Et donc, je voulais me mettre en position que cette opportunité arrive.
Ouais.
Et du coup, cette opportunité qu'est Yakon & Co, même s'il y en a eu d'autres avant, est venue de ce mélange, parce que je suis un homme du mélange, avec Thierry, qui est le meilleur ami de mes parents, et qui est en Auvergne, et donc qui me permet aussi de pouvoir avoir un ancrage en Auvergne et apporter de la valeur ajoutée dans ce territoire. Parce que...
Dans le milieu du travail, en plus.
Ouais, exactement. Ouais. En vrai, tu vois, quand tu recrutes quelqu'un à Vichy, qui est un ouvrier qui trime depuis 10 ans, qui faisait des horaires de nuit, quand tu lui offres un cadre de travail avec un salaire qui est convenable, avec une mission qui lui plaît, et que le premier jour il est arrivé, tu sentais que c'était quelqu'un d'un peu morose parce que un peu tapé par la vie, et que au bout de quelques mois, c'est quelqu'un qui se marre au boulot, qui du coup peut voir ses enfants tous les soirs, etc. Ça a du sens. Quand tu recrutes, c'est pas pareil que de recruter quelqu'un à Paris. Quand tu recrutes un cadre en market ou en sales, il a du job et il a déjà une belle vie, et c'est moins compliqué. Donc je trouve que le fait d'avoir cet ancrage auvergnat et pouvoir donner de la valeur aussi à des personnes qui me ressemblent pas a priori, ça j'en suis ultra fier, et ça a de la valeur, et je le dis à peu près à tous nos weekly, que ce soit dans les moments positifs comme négatifs, en fait on vit une expérience tous ensemble et kiffons ensemble, que tu sois en train de faire de la prod, envoyer des colis, gérer le compte Instagram, ou en train de pitcher la boîte aux quatre coins de la France, quoi.
Ou sur un podcast.
Exactement.
Donc toi, t'as fait une école de commerce, c'est ça que tu disais, enfin école de commerce, et c'est dans ce cadre là que t'es parti à New York?
Communication, j'ai fait l'ISCOM, l'ISCOM Paris, et ouais, c'est dans ce cadre-là, en fait, ils avaient un programme en 2 ans qui a été fait pour les personnes qui venaient pas de la communication, qui, après une licence, voulaient se spécialiser en communication. Donc l'objectif, c'était de rattraper un petit peu ce que les autres avaient acquis en 5 ans et toi de le faire en 2 ans. Et donc c'était un programme qui était assez neuf et qui disposait pas d'année de césure. Toujours beaucoup voyagé quand j'étais petit avec, avec mes parents. Et j'avais pas fait d'Erasmus, j'avais pas fait d'année de césure. Donc j'avais envie un peu de me challenger et de. Et bah, même si j'étais à Paris ou à Moulins ou à Clermont, tu vois, j'étais pas chez moi, mais je rentrais tous les week-ends.
Ouais, c'était pas assez.
Que je repartais le, avec les petites tupperwares de maman. Et donc j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et de continuer à explorer la vie. Et du coup effectivement j'ai poussé, ils avaient jamais fait d'année de césure en fait entre le master 1 et le master 2, donc je suis allé voir la direction en leur proposant mon projet et en leur disant que moi c'était essentiel pour pouvoir avancer, et ils ont accepté.
Génial.
Donc ouais. Incroyable. Et à partir de là, recherche de stage pendant 6 mois, j'avais besoin d'un stage, d'une convention de stage, et ensuite road trip en Amérique latine. Donc deux expériences aussi qui ont bien structuré ma vie, bah parce que là pour le coup t'es face à toi-même. Hein. T'arrives, j'avais pas encore de location à New York, alors je suis pas parti les poches vides, ça va, j'avais un petit peu d'argent de côté, mais bon bah ok, maintenant mission, trouver un logement. Je parle pas très bien anglais, je connais pas la ville,
ouais.
De fil en aiguille tu t'adaptes et tu t'installes quoi.
C'est assez fort comme quoi la polyvalence t'a servi même à l'autre bout du monde aussi.
Ouais, la débrouillardise en fait, le fait d'être polyvalent ça te permet d'être quelqu'un de débrouillard. Et en vrai je pense que pour réussir dans la vie, si t'es débrouillard, t'as quand même de grandes chances de pouvoir t'en sortir, parce que même si tu vas pas faire les choses de manière conventionnelle comme un expert pourrait le faire, donc ce sera pas forcément la bonne manière de le faire, mais si t'es débrouillard, tu vas le faire. Donc
ouais.
Peu importe le chemin par lequel tu passes, tu vas le faire. Donc effectivement, je suis jamais passé par les chemins conventionnels, et probablement encore quand il s'agit aujourd'hui de lever des fonds, en tout cas pour notre première levée de fonds, parce que je connaissais pas ça. Mais par contre, je suis débrouillard. Donc ok, bah je baisse la tête, j'y vais, je prends des claques, je me relève, et j'apprends, et ce qui me permet d'être meilleur.
Ça c'est le road trip en Amérique du Sud qui t'a permis ça. T'es parti avec un pote, je crois.
Ouais, je suis parti avec mon meilleur pote. Ouais, je suis parti avec mon meilleur pote. Qui lui est un gros fan de montagne. Tu vois, l'année où on est rentré, il a traversé les Alpes à pied pendant 4 mois tout seul. Enfin, c'est un peu un maboule de montagne. Et du coup, on est parti avec cet objectif de pas de plan.
Ouais.
On a un itinéraire, mais dans quel ordre on va le faire, on sait pas trop.
C'est quoi, c'est profiter, se dépasser, apprendre à se connaître. C'était quoi l'objectif de
profiter, se dépasser d'un point de vue aussi d'un point de vue sport. Tu vois, on s'est fait un 6000, donc ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'est j'avais envie d'appréhender le milieu de la montagne aussi parce que j'aime bien les sensations fortes. Et ouais, profiter quoi, kiffer en vrai. On s'est fait 4 mois où bah on faisait un mélange de stop, de but. Après on a loué un van, il n'y avait pas de problème, on avançait au rythme qu'on voulait, on rencontrait des gens complètement différents tous les jours, que ce soit des backpackers, des locaux, des guides de montagne, des gens qui étaient installés sur place, et du coup les deux expériences m'ont beaucoup apporté, que ce soit New York et l'Amérique latine. Plutôt sur la partie perso et vraiment sur, okay. Je pense sur ma personnalité au plus profond de moi, moins sur la partie pro, mais bien évidemment
ça joue
énormément.
Qu'est-ce que je voulais dire, parce que là en fait c'est assez marrant, tu vois, si on écoute là depuis le début ce petit quart d'heure,
ouais.
On se dit putain, mais en fait le mec il est en train d'interviewer un sportif de l'extrême.
Ouais, pas du tout. Ouais.
C'est ça qui est assez drôle. Et c'est pour ça que je vais en venir doucement, tranquillement, à Yakonenko.
Ouais.
Comment est né Yakonenko? Est-ce que c'est justement en Amérique du Sud où tu as connu justement le sirop d'Yakon? Est-ce que c'est via Thierry?
Ouais, non, c'est via Thierry. En fait, on avait tous les trois cette problématique du sucre. Alors, via des histoires différentes. Hein. Raphaëlla, gros problème de digestion, notamment quand elle vivait à New York. Moi, du coup, sportif, et du coup, effectivement, bah, je fais attention à ce que je mange. Je considérais vraiment ce problème du sucre. Et Thierry, c'était vraiment, pour le coup, lui, il était lié pathologiquement au sujet du sucre, puisque diabétique de type 2. Et Thierry, c'est un visionnaire. Il a monté plein de boîtes pendant toute sa vie. Il plein de boîtes souvent très visionnaires. Et il a toujours un temps d'avance. Et du coup, lui, il est parti de ce problème-là. On était en Auvergne et il avait déjà un panel de solutions,
okay.
Qu'on a pu tester. Et le sirop d'Yakon est ressorti sorti loin devant les autres parce qu'il cochait toutes les cases. C'était un produit qui était hyper bon en termes de goût, très sain, et à tous les points de vue. Indice glycémique, oui, mais l'idée, c'est pas de te fusiller le foie ou les intestins, c'est donc de ne pas avoir d'impact négatif sur d'autres organes. Et ça, le Yacon vraiment coche cette case. Donc, on est parti sur ce produit-là. Mais moi, pour le coup, j'en avais pas du tout entendu parler au Pérou. C'est pas ultra connu au Pérou. C'est, si tu montes dans les montagnes, les gens le consomment en tubercule. Si tu vas vraiment dans le fond des marchés à Lima, tu peux trouver quelques tubercules, mais c'est pas hyper hyper populaire.
Parce que c'est quoi dans le fond le Yacon? C'est quoi? C'est une poire de terre, non?
Ouais, j'avais vu ça. En français exactement, ça s'appelle une poire de terre. C'est une grosse tubercule en fait. Ça ressemble à une grosse patate douce. Et donc c'est une tubercule qui a un goût qui est assez agréable, qui a un goût légèrement sucré, qui est très hydratante et que tu peux manger cru, cru ou cuit. Tu peux vraiment les cuisiner des deux façons et donc qui est assez réputé là-bas, mais plutôt dans les terres reculées.
D'accord. Et le sirop, on peut extraire du sirop, c'est ça, du coup, pour faire...
Ouais, tu extrais un jus, et à partir de ce jus... alors, il y a un vrai savoir-faire industriel hein, dans tout ce procédé de transformation. Et à partir de ce jus, tu vas le concentrer dans des gros concentrateurs sous vide. Ouais. Et là, tu obtiens effectivement un sirop. Mais en fait, il y a un vrai savoir-faire dans la concentration, parce qu'il faut monter assez en température pour avoir cette petite réaction de Maillard qui va te donner, on a 25-30% de sucre simple. Okay. Et qui font que le produit est un produit gourmand et qui a un goût du coup entre le miel et le sirop d'érable, mais ne pas trop monter non plus parce que le reste c'est des fibres et il faut pas que les fibres se transforment en sucre simple.
Très bien, c'est très clair, c'est un peu scientifique en plus, donc nous on aime.
On essaye de vulgariser, ouais, c'est un peu notre mission sur les réseaux sociaux, de pas être trop chiant sur la partie scientifique pour le rendre un peu plus sexy et vulgaire et que tout le monde le comprenne, quoi.
Donc là, on a du Yacon, donc le sirop d'Yacon. On a Thierry qui est diabétique, on a Rafaela, on a Clément. Comment ça se passe un peu cette histoire
C'est-à-dire au début?
Ouais, au début, comment vous vous êtes dit, ok, on va vraiment aller sur le sirop d'Yacon?
Bah, en fait, on a construit notre boîte un peu de brique par brique. Il y avait un truc avec Thierry, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir Paris. Il avait une agence de com à Paris, et donc c'est lui qui m'a dit, écoute, t'es bien gentil avec Clermont, mais quand même, viens voir ce qui se passe à Paris, tu verras, ce sera sympa. Et du coup, à partir de là où j'ai passé 2 mois dans son agence de com, ça a créé une relation un peu particulière où à chaque fois que je le voyais, bah, on discutait vraiment longtemps de projets entrepreneuriaux. Enfin, il a senti cette fibre entrepreneuriale que j'avais en moi et je pense que ça lui a plu. Du coup, on a construit les choses brique par brique. Effectivement, au début, on était plutôt tous les deux. Rafaela, en fait, c'est très vite... On l'a très vite inclus dans le projet et du coup en plus ce qui est hyper intéressant c'est qu'on a chacun nos domaines d'expertise. Raph c'est une machine de guerre en market, en com, en représentation publique, en RH et en chiffres, donc on n'a pas fait ça par défaut, vraiment c'était une vraie volonté de le faire tous les trois. Et en vrai, si je prends un peu de recul, je pense que beaucoup de gens dans nos entourages respectifs, quand on s'est lancé, ils nous disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font, les gars ?» quoi. C'est con, ils étaient pas trop mal partis dans la vie. Et parce que on a aussi appris en faisant. Donc, on a commencé par une campagne Ulule. Après, ça nous a permis de créer un petit laboratoire de production dans la grange de Thierry. Donc, on a mis une cloison, on a mis tout aux normes et on avait 40 mètres carrés où c'était hyper artisanal. Mais grosse galère logistique parce qu'il habite à Arfeuil, donc c'est à côté de Châtel-Montagne.
Là, tu nous sors des villes que même dans le Tour de France, on les voit pas.
C'est clair. Et où, par exemple, les camions pouvaient pas venir parce que pour arriver chez lui, t'as un chemin en terre d'1 km.
Okay.
Donc, on était obligé de faire livrer les camions dans le bourg du village où, en fait, ils livraient la palette et après, on faisait les allers-retours en voiture. Donc on a bricolé tout ça petit à petit, campagne Ulule, site e-commerce, après on a commencé le retail et on s'est très vite entouré. On s'est très vite entouré d'advisors, on a assez rapidement levé des fonds.
Que vous avez trouvé facilement ou comment vous avez réussi à trouver facilement?
Alors facilement...
C'est connaissance ou c'est...
Non, on avait zéro réseau en vrai. Moi j'avais zéro réseau, Thierry avait zéro réseau, Raph avait peut-être un petit peu plus de réseau que nous parce qu'elle est de Paris à la base, mais qu'on n'a pas forcément sollicité parce qu'il n'était pas forcément dans nos secteurs d'activité. Donc on Bah, pareil, tu tentes, quoi. Donc, tu LinkedIn, email. Tiens, là, j'ai une personne, je lui ai demandé de me mettre en relation avec cinq. Sur ces cinq, peut-être qu'il y en aura deux qui vont répondre, etc., etc. Ça fait boule de neige. Donc, advisor. Ensuite, levée de fonds assez rapide. On a eu de la chance dans notre levée de fonds, c'est que, en fait, on a, à chaque fois qu'on part en prospection ou en levée de fonds, on close quand même assez vite par rapport au nombre de gens qu'on rencontre.
C'est fou. Donc, assez convaincant, finalement.
Ouais. Et alors, on essaye de bien cibler aussi les gens qu'on va chercher pour être sûr que, on économise un peu notre énergie. Et en fait, l'advisor qu'on avait rentré nous a mis en relation avec une investisseur. Qui a mis tout de suite au capital et qui a leadé le tour, notre premier tour de table.
Incroyable.
Donc, incroyable. Et après, derrière, malgré tout, pour lever des fonds, c'est plus simple. Et du coup, après, ça fait un peu plus, pas à l'arrache, mais en tout cas, sur du cold email, du cold LinkedIn, etc., etc. On avait quand même une vraie base déjà qui était là. Et puis maintenant, on commence à avoir une petite notoriété. Et donc, le site web, le retail a emmené vers un projet qui était beaucoup plus ambitieux parce qu'on avait un sujet avec le sirop diacon, c'est que ça, tout de suite, on a vu que ça plaisait beaucoup, beaucoup. Mais on avait des sujets d'appro. Et on les a encore, hein, on est en plein dedans.
Vous tous faites au Pérou, pour l'instant.
Ouais, exactement. Ouais. On fait des tests en France pour un jour essayer d'avoir une filière Yacon française. Mais avant 4-5 ans, pour l'instant, ça vient du Pérou. Mais au Pérou, c'est hyper artisanal. Donc, il y a quasiment pas de gros producteur qui est industrialisé et sur qui tu peux compter toute l'année.
Pour vous, c'est un peu du commerce équitable ? Enfin, tu considères ça comme du commerce équitable ?
Au Pérou, c'est tellement artisanal que oui, c'est du commerce équitable. Ils n'ont pas encore les labels. En tout cas, il n'y en a que quelques-uns qui l'ont, mais c'est des tout petits producteurs. Du coup, le fait qu'on ait une filière qui soit structurée de manière très artisanale a créé une opportunité pour nous, puisqu'on s'est dit, si on arrive à le structurer, à l'industrialiser et que derrière on arrive à prendre le marché, on aura des grosses, grosses, grosses positions. Là, on est en train de construire notre usine au Pérou. On fédère et on structure les associations de producteurs autour de l'usine. On leur finance leur label bio pour ceux qui sont pas en bio. Donc, ça va aussi leur permettre de faire évoluer leurs pratiques. Et s'ils vendent des patates, potentiellement, ils vont les vendre 30% plus cher parce qu'elles sont bio. Pareil, s'ils font de la patate douce, de l'oignon, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Iacon et c'est pour ça qu'on le fait. Mais en tout cas, si ça peut leur permettre de donner de la valeur ajoutée à leur terre et à leurs pratiques, tant mieux. On leur finance aussi les engrais naturels. Alors, on n'est pas des mécènes, c'est quelque chose après quand on rachète le stock qu'on déduit, bien évidemment. Avec tout ça, effectivement, on va se faire labelliser commerce équitable. Ouais.
Ce que j'aime bien, c'est que vous êtes vraiment investi et engagé à fond dans le projet.
Ouais.
Ça me fait penser à Vulfran de Panafrica.
Ouais.
Il est parti là pendant 6 mois, voire un an, peut-être à Abidjan.
Ouais.
Parce qu'ils construisent une usine directement sur place aussi là-bas.
Ouais.
Parce qu'ils fabriquent justement des chaussures en wax, coton africain, ouais, tissu, etc. Et donc je sens un peu ces similitudes, tu vois, de parcours, c'est l'envie, en tout cas, de faire travailler et d'inclure, on va dire, dans la chaîne de valeur, toute la chaîne de production, en fait.
Ouais, je crois que tous les trois, on n'avait pas vraiment envie de faire une marque, tu vois, juste une marque, tu externalises tout, tu fais une marque qui s'adresse au CSP+, à Paris et basta. Donc après, à New York, si tu réussis bien, chez Whole Foods, etc., etc. On avait vraiment, en fait, cette problématique nous tient tellement à cœur qu'on avait envie d'y répondre de la manière la plus complète possible. Et pour ça, on avait besoin de maîtriser toute la chaîne de valeur. Et c'est passionnant. C'est plus de risques parce qu'on crée une usine au Pérou, donc il y en a que ça effraie, pas tant que ça. On a été très bien accompagnés par les banques, par nos investisseurs. Il y a pas trop de problèmes, en vrai.
Comment ça se passe là-bas? Il vous faut quelqu'un en local qui vous accompagne aussi, un partenaire local?
Ouais, on a créé une filiale, en fait, et on a donné 15% de la filiale à la gérante sur place, qui fait du Yacon, elle, depuis une vingtaine d'années, qui avait pas de capital et qui savait pas vraiment exporter. Et donc là, elle, ce qu'elle dit, c'est que et Thierry a pas les sido, tu vois. Thierry est apparu parce que nous, on sait exporter, on a du capital et du coup, en fait, ça, c'est un match parfait. Donc on lui a donné effectivement 15% de la société sur place et c'est elle qui va gérer l'outil de production, qui va embaucher donc directement en année 1 une trentaine de personnes et qui va faire vivre une centaine de familles d'agriculteurs.
Et ça, c'est un objectif que vous aviez depuis le début?
C'est un objectif qui est arrivé quand on a commencé à se spécialiser sur le sirop diacon, parce qu'avant on faisait plein d'autres choses, mais on s'est spécialisé sur le sirop diacon. Et en fait, quand on faisait les salons, on repartait avec allez, on va dire sur une base de 100 leads, on repartait avec 30 leads, 30 leads de distributeurs. Donc, on y allait pour voir des distributeurs, notamment dans la bio, donc des Naturalia, Biocoop, Sobio, Bio, c'est bon. Et on repartait avec, je sais plus si j'ai dit 20% ou 30%, mais on repartait avec 70-80% de leads d'industriels qui venaient sur notre stand, qui nous disaient, attendez, mais nous, c'est notre problématique numéro un de supprimer le sucre. On a tout essayé, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Donc, du coup, tout ça a emmené à des rendez-vous avec les industriels. Et là, on s'est vite rendu compte que les industriels, ils avaient deux enjeux. Un, la standardisation du produit. Et beaucoup nous ont dit, écoute, moi, Clément, j'ai essayé le sirop diacone il y a 3, 5, 7 ans auprès de fournisseurs différents. Et en fait, j'avais des sirop diacone qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc, bah, tout de suite, ça cut la relation. Donc, standardiser et prix. Et en fait, on est parti, nous, d'un prix à 11,50€. Là, on est à 9,90€. L'objectif, c'est de descendre encore le plus possible. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait en tout cas une vraie opportunité à saisir. Donc, on a commencé à faire les calculs pour voir si, en termes de rendement au champ et après de rendement à l'usine, on pourrait potentiellement avoir un produit et un product market fit au niveau des industriels. Parce qu'on sait qu'on l'a au niveau des consommateurs, mais c'est une autre chose de l'avoir auprès des industriels qui ont d'autres attentes. Et on s'est vite rendu compte que oui. Donc, on essaye d'aller vite pour être les premiers. On est les premiers, mais je pense que ça va pas tarder de se réveiller. Mais du coup, ouais, c'est de fil en aiguille. Et au fur et à mesure des rencontres. Et du coup, non, je te mentirais si je te disais que c'était une idée du début.
Et justement, ce product market fit,
ouais.
Vous y êtes arrivé, enfin, tu penses ?
Ouais, avec ce qui nous est arrivé sur qui va être mon associé. Du coup, on a fait ça chez le surligneur Le Crayon qui nous accompagne sur la partie RP. Donc, ils nous ont gentiment prêté leurs locaux pour faire la soirée de diffusion. Et du coup, on avait les Shopify, etc. Valéran, à la fin, est arrivé, m'a dit... Je crois qu'on appelle ça un product market fit, non? Et ouais, je crois qu'on a... Enfin, c'est un truc de ouf. Qui veut être mon associé? On a, le soir de l'émission, on a fait 10% de conversion sur le site internet. Donc, dans l'e-commerce, qui est juste colossal.
J'ai les chiffres sous les yeux. Vous avez levé 2 millions avec Kelly, je crois que ça?
Alors, non Kelly, nous, on allait pour compléter une levée de fonds d'1 million d'euros auprès de, effectivement, en partie Kelly. Et après, il y a de la dette, ce qui, du coup, met une levée de fonds au global de 2 millions d'euros. Ouais.
D'accord, 2 millions voilà, d'euros levés. 120 ventes par minute. Je crois pendant la soirée, c'est incroyable.
Ouais, c'est du
90 000 visiteurs uniques, 500 000 euros de chiffre d'affaires dans les 48 heures post-diffusion.
Ouais.
Comment on s'y prépare à tout ça?
Alors nous, on pensait, on s'était fait un petit challenge et on s'était dit, allez, combien on fait de commandes ce soir, vraiment le soir de la diffusion. Moi, je crois que j'étais le plus élevé parce que toujours l'optimiste de la bande et j'étais autour de 4 000. On en a fait 21 000.
Donc, t'es loin.
Ouais, donc j'étais loin. Et du coup, alors comment on s'y prépare, c'est contacter le maximum de gens possibles qui ont fait cette émission.
Ouais.
Donc nous, c'est ce qu'on avait fait. Et on avait des gens qui avaient explosé, d'autres un petit peu moins. Donc on avait tablé sur ce chiffre-là. On avait même tablé sur un chiffre un peu plus important. Je pense que jusqu'à 10 000 commandes, on aurait pu être assez bon. Là, 21 000, c'était difficilement envisageable. Donc... En fait, nous, ce qu'on nous disait, c'est oui, surstockez-vous, faites aussi attention, parce que moi, je connais des boîtes, et il y a des gens qui m'ont dit ça, je connais des boîtes qui ont failli couler parce qu'elles n'ont pas été diffusées.
Ouais.
Donc, si tu stockes à hauteur de 300 ou 400 000 euros et que tu n'es pas diffusé, bah, derrière, c'est plus compliqué. Donc, tu avais un juste équilibre à trouver, on ne l'a pas trouvé. Donc, pour l'instant, on continue de rattraper le retard. Mais c'est effectivement... Prendre de l'info auprès des gens qui ont déjà fait cette émission. Et après, essayer d'avoir un petit peu de recul. Nous, on savait que ça s'était bien passé parce qu'on avait bien préparé l'émission. Mais après, c'est un peu l'inconnu. Hein, donc,
c'est un produit nouveau aussi, quoi qu'il arrive. Ouais. C'est le sirop diacone. Personne n'avait entendu parler quasiment avant l'émission.
Ouais, produit nouveau, produit un peu cher. Donc aussi, on se disait, bah, effectivement, peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui pourront pas l'acheter parce que pour l'instant, trop cher.
Vous avez peur du prix, justement? Est-ce que quand vous avez mis ce prix à 11 euros au départ et aujourd'hui, 9,50 à peu près, est-ce que vous avez eu peur de dire, putain, est-ce qu'on est trop cher?
Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Déjà, on perd de l'argent, même en le vendant à ce prix-là aujourd'hui. Donc, on ne pourrait pas le vendre moins cher. Par contre, on a des perspectives de le vendre moins cher, notamment avec la construction de l'usine. Là, on n'a pas le choix et du coup, on a adapté tout le reste en fonction du prix.
D'accord.
C'est aussi pour ça qu'on est allé en retail bio, plutôt que d'aller en grande distribution. Mm. Parce qu'un pot de sirop diacone en grande distribution, dans la conjoncture actuelle, à 9,90€,
ça grince
un peu des dents. Peut-être sur Paris, dans du Franprix, du Monoprix, du Monop. Mais si tu vas au Carrefour de Vichy, pas sûr.
Il est distribué à Vichy. Ou pas pour
l'instant? Ouais, bien sûr, ouais. Il est distribué au Biocop de Vichy. Il y a un autre magasin qui est en centre-ville qui est une petite épicerie fine. Mais ouais, Vichy, c'est le premier magasin. Biocop de Vichy, c'est le premier magasin qui nous a fait confiance, ouais. Et je sais plus où on en était, mais.
Ouais, non, on parlait de ce produit nouveau. T'es pas sûr que ça marche, que ça fonctionne. Vous allez tenter, vous allez essayer.
Ouais.
Vouloir concurrencer, entre guillemets, une industrie comme le sucre, est-ce que c'est une folie, une insouciance, du courage ou alors une destinée?
Est-ce que c'est une folie? Je pense que c'est de l'insouciance, ouais. Après, nous, on est sur un marché qui est beaucoup plus global. On n'est pas que sur le marché du sucre. Et en fait, aujourd'hui, à date, on vient pas trop concurrencer le sucre. Parce que le sucre, il est tellement peu cher et tellement ancré dans les mœurs que, dans un premier temps, on vient plutôt concurrencer les alternatives au sucre.
Mmh.
On vient plutôt concurrencer un sirop d'érable, un sirop d'agave, un sirop de datte, un miel. Et donc ça fait aussi un peu grincer des dents en France. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est oui, le miel, ça a plein d'effets positifs, et notamment plein d'effets positifs que n'a pas le sucre ou les édulcorants artificiels. Mais par contre, le miel sur la molécule sucre, c'est pas OK. Si tu manges du miel comme un cochon tous les jours, et quand je dis comme un cochon, c'est, des tartines le matin, du miel dans tout ton thé, tout ton café, et le soir dans ton yaourt, donc ce qui équivaut à 20-30 grammes de miel par jour, bah en vrai, t'es pas serein sur la partie diabète de type 2 qui pourrait arriver, parce que ton corps sécrète de l'insuline, parce qu'il y a un pic d'insuline. Et donc, il y a une molécule sucre qui est très importante, t'as à peu près 80% de sucre simple dans le miel. On crache pas dessus et on tire pas à boulet rouge sur le miel, parce que, surtout en France, on sait que c'est un produit de grande notoriété. Mais par contre, on essaye d'éduquer le consommateur en lui disant, mange du miel si tu veux, et moi je mange du miel. Hein. Mais par contre, conscientise quand tu manges du miel. Et essaye de savoir ce que ça va faire sur ton corps. Et donc, en fonction de ça, tu sauras aussi ce que le sirop d'érable, le sirop d'agave, le maltitol, le xylitol, l'aspartame, le sucre blanc et le sirop diacone font sur ton corps quand on consomme. Et si tu es rentré dans cette dynamique de conscientisation, il y a 95% de chances que tu bascules sur le sirop diacone.
En fait, vous avez envie surtout de transformer l'alimentation plus que transformer le sucre. C'est faire comprendre aux gens comment on consomme un peu mieux, un peu moins, mais mieux.
Ouais.
Ça fait moins mais mieux, j'ai l'impression.
Ouais, moins mais mieux, exactement. Et puis, on mange trop de sucre. Ça, pour le coup, nous, on dit qu'on n'est pas frontalement concurrent par rapport au sucre, malgré tout, un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, on mange trop de sucre. Il y a du sucre partout. Donc ça, oui, ça, par contre, c'est un vrai combat. Par contre, une fois de plus, si demain tu vas dans une pâtisserie et que tu manges, une tarte au citron meringuée qui est pleine de sucre et que t'es conscient qu'elle est pleine de sucre, bah fais-toi un kiff. Par contre, nous, notre volonté, c'est qu'il y ait les tartes au citron meringuée au sirop diacone qui soient à côté et que t'aies l'opportunité de choisir.
Et ça, à moyen terme, ce sera possible? Il y a des boulangers, déjà, qui font des pâtisseries avec du sirop diacone?
Ouais. Alors, on a lancé la RHF, donc Restauration Hors Foyer, il y a 5 mois. On est présent dans pas mal de restaurants, là. On est présent dans une petite chaîne de restos qui a une dizaine de restos qui s'appelle Popot Cantine Respectueuse, où ils ont fait toute leur carte de dessert au sirop diacone, plus des sauces dans lesquelles ils mettaient du miel. Et du coup, ils ont changé avec le sirop diacone, donc c'est un carton. Après... J'ai pas les chiffres en tête, mais oui, on est dans une pâtisserie qui est assez healthy, qui s'appelle Culinaire by Kenza, qui est dans le Nord. Pâtisserie sans sucre qui s'appelle Au Contraire, qui est à Marseille. Donc ouais, ça vient, ouais. On est en relation avec tous les palaces. Alors ça prend un petit peu de temps de rentrer dans les palaces, mais tous les palaces parisiens pour qu'ils fassent un dessert au sirop diacone. On avance fort sur ce sujet-là aussi, ouais.
C'est quoi ton petit dessert coup de cœur, toi?
Moi, mon petit dessert coup de cœur, justement, c'est la tarte au citron meringuée.
Ok.
Ouais. Tarte au citron meringuée.
Tu sais faire, d'ailleurs, ou pas?
Ouais, que je sais faire, ouais.
Ah.
Ouais. Ouais, j'aime beaucoup cuisiner, donc je me fais des petits kiffs de temps en temps.
Je suis bête, on aurait dû se faire un petit épisode en cuisine, ouais. Là, tu vois. On aurait fait une tarte citron meringuée,
ouais. Je préfère cuisiner le salé que le sucré à la base. Mais j'aime beaucoup cuisiner, ouais.
Mais tu sais pourquoi? Je crois qu'il y a des molécules dans le cerveau ou autre qui font que tu préfères le sucré au salé.
Ouais, aucune idée.
Mais moi non plus, tu vois.
Voilà. Je ne sais pas. On est bien avancé.
Mais je sais que ça existe. Voilà, merci. C'était la seconde science. La seconde science. Les Nutri-Score aussi ont évolué ces dernières années. C'est-à-dire que le Sirodiacone remplit un peu plus les critères.
Ouais, carrément, nous, on est Nutri-Score B, si je dis pas de bêtises. Donc, pour un produit... Alors, il y a quelque chose qui est toujours touchy avec le Nutri-Score, c'est que mettre un Nutri-Score, tu vois, sur une huile d'olive, un Nutri-Score, donc je crois que c'est C ou D, si je dis pas de bêtises, mais C, a priori, et le comparer avec un Nutri-Score d'un je sais pas moi, de Chocapic ou d'une pizza surgelée, ça n'a aucun sens. Et c'est là aussi où je parle de conscientiser l'acte d'alimentation, c'est qu'il faut être capable, quand t'es dans le rayon des huiles, quand tu vois le Nutri-Score C sur l'huile d'olive, de te dire que, un, l'huile d'olive, t'en mets quand même relativement peu dans chaque recette, et t'en manges pas comme tu pourrais manger des pizzas surgelées, des chocapics.
Je sais que j'en mets pas mal d'huile, franchement, Et d'ailleurs, j'ai plus d'huile d'olive à la maison, voilà, si jamais une marque nous écoute et veut nous livrer.
Eh ben, allez-y.
Voilà, on peut faire ça.
On aime beaucoup Kallios, nous, on discute beaucoup avec Kallios, donc très bonne huile d'olive.
Mais c'est assez intéressant ce que tu dis, cette histoire de conscientisation, c'est savoir ce qu'on consomme, savoir ce qu'on mange.
Ouais.
C'est qu'un Nutri-Score, c'est, sur le papier, c'est qu'une lettre.
Ouais.
Tu vois, c'est comme tu peux avoir les produits, je crois, veggie qui sont en E, des fois.
Ouais.
Alors que pourtant, ils sont meilleurs qu'un jambon blanc d'une marque que je ne citerai pas, quoi.
Ouais, clairement, ouais. Et puis, il y a l'aspect nutrition, oui, mais il y a aussi l'aspect environnement, il y a aussi l'aspect... Enfin, c'est... Il faut voir les choses comme quelque chose de global. Et donc, si tu es capable de te dire que, par exemple, je sais pas, moi, mais... Ouais, non, j'ai pas d'exemple en tête, mais manger, je sais pas moi, un blanc de poulet et que le poulet vient du Brésil, même si les Nutri-Score A, ton blanc de poulet, en fait, c'est une connerie. Si tu manges un blanc de poulet, essaye de manger un blanc de poulet à minima qui vient de France. Après, je te dis pas d'aller forcément chez le boucher, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller chez le boucher. Mais essaye de regarder un petit peu plus loin que le bout de ton nez et de voir comment tu peux faire du bien à la planète, à ton corps et aux autres.
Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'on vous a déjà fait des reproches de vous dire « Ok, c'est très bien, c'est du Sirodiacone, c'est du très bon sirop, par contre, vous allez le chercher à l'autre bout du monde ?»
Ouais, carrément, c'est tous les jours, en vrai.
Ouais. Comment tu réagis, toi, par rapport à ça ?
Bah, je comprends, parce que c'est une critique qui est entre guillemets, justifiée. Nous, il y a plusieurs choses. C'est que, un, le Sirodiacone, il pousse pas en France. Donc, pour l'instant, enfin, il pousse, mais dans des structures maraîchères.
Ouais.
Donc, ça veut dire que c'est du yacone qui va être vendu en tubercule sur une étale d'un marché à 8 euros le kilo, ça te fait ton kilo de Sirodiacone à peu près 800 euros le kilo. Donc ça va
compliqué,
voir.
Ouais.
Compliqué.
Surtout chez nos prix. Hein.
Ouais, exactement. Donc on bosse sur la filière France, c'est des choses qu'on teste tous les ans. Peut-être qu'un jour on arrivera à créer une filière de Sirodiacone made in France. Nous, il vient du Pérou, en bio, il vient en bateau, et donc on est en train de faire les fameuses ACV, donc analyse du cycle de vie, pour voir l'impact du bateau dans la production de Sirodiacone, et potentiellement comparer une ACV de Sirodiacone avec une ACV de sucre qui vient du nord de la France et qui est blindée de néonicotinoïdes, et voir vraiment, tu vois, ce qui est le moins polluant. Et je ne l'ai pas encore sur le papier, donc je peux pas le dire, mais je suis quasiment sûr à 99% que le Sirodiacone sera largement gagnant. Et au-delà de ça, on a un projet qui est mondial. On est déjà en train de discuter avec les États-Unis, avec plein d'autres pays partout dans le monde. Et du coup, qui dit projet mondial dit que potentiellement, on devra exporter à un moment donné, même si le rêve ultime, c'est... Oui, d'avoir des usines un petit peu partout où il y a des zones de commerce. Mais ça viendra dans un second temps, si c'est possible, parce que pour le coup, le Yacone a des conditions climatiques qui sont assez exigeantes. Il faut qu'en gros, pour être rentable, il faut qu'il fasse entre 5 et 25 toute l'année.
Okay.
Le plus possible, comme ça, tu as plusieurs récoltes. Et pareil, en France, tu vois, même si un jour on arrive à faire une filière française qui est hyper compétitive en termes de prix, en France, on n'aura toujours qu'une récolte dans l'année.
Okay.
Tu plantes là, tu vas pas tarder de planter, et tu récoltes, t'arrives à l'étaler de mi-octobre à mi-décembre. Donc ça veut dire que derrière, tu vas fabriquer du Sirodiacone pendant 2 mois, donc construire une usine qui va servir 2 mois dans l'année, sur le même modèle que les industries betteravières. Sauf que nous, c'est du sirop, donc il y a un petit peu d'humidité. Donc si tu veux le conserver le plus longtemps possible, ça veut dire que tu le stockes en chambre froide. Fabriquer du sirop pendant 2 mois pour le stocker en chambre froide, dans des énormes chambres froides
pendant
10 mois,
c'est vrai que ça va plus compliqué.
Ouais, ouais. Écologiquement, c'est pas forcément plus cohérent que s'il vient en bateau du Pérou, quoi.
Ça, en fait, ça a beaucoup de sens. C'est très compliqué, j'ai l'impression, quand on veut faire du responsable à 100%, surtout dans l'alimentation. Tu te rends compte de ce que vous avez créer, en fait. Est-ce que des fois, tu te rends compte, tu te dis, putain, c'est vrai qu'on a fait ça.
Ouais.
Putain, c'est vrai qu'on fait bosser des familles au Pérou. C'est vrai qu'on fait bosser une industrie, des villages au Pérou.
Ouais, on y arrive un petit peu pas assez, je pense. Pour le coup, tous les trois, avec Raph et Thierry, on célèbre pas assez et on prend très peu de recul sur tout ce qu'on a fait. Mais malgré tout, et notamment avec ce qui est en train de nous arriver en ce moment, en fait, on s'est lancé il y a un peu moins de 3 ans. C'était début mai 2021. Je sais pas à combien on va finir l'année, mais l'objectif, c'est de faire 2,5 millions, 3 millions avec une usine qui tourne au Pérou et qui produit 400 tonnes de sirop d'acone par an, ce qui équivaut à 4 fois le marché mondial aujourd'hui. Ce qui va potentiellement demain nous permettre de faire des contrats avec des industriels et donc qu'il y ait des gammes de biscuits, de yaourts, de boissons à base de sirop d'acone qui sortent dans les supermarchés. Donc ouais, c'est ouf. Ça reste très fragile, mais c'est ouf. Mais par contre, il faut qu'on monte en compétence sur les trois, sur le fait de célébrer un petit peu plus et aussi pour les équipes. Hein. Mais en fait, on est, dès qu'on a fait quelque chose, OK, what's next? Ça, c'est fait. Tu vois.
Vous prenez pas le temps assez de...
Ouais. Pas assez, non. Alors, qui veut être mon associé? On est encore dans le dur, là, tu vois. Donc, on n'a pas encore pris le temps de célébrer. Mais il va falloir qu'on prenne le temps de célébrer parce que le scale de cette année 2024, il est fou.
L'évolution est impressionnante. Mais je pense que le qui veut aller mon associé, ça change une vie complètement. Et il ne faut pas se rater le virage, l'après.
Ouais, et on est pile poil dans ce challenge. On a un produit qui plaît. Aujourd'hui, les critiques qu'on a, c'est juste parce qu'on n'a pas livré, problème de logistique, les gens attendent leur commande, ils s'impatientent. Par contre, le sirop d'acone plaît. Une fois qu'on a conquis le consommateur, il goûte, il y a 90% de chances qu'il aime le produit et donc qu'il réachète. Donc là, notre priorité, c'est de livrer tout le monde. À partir du moment où on aura livré tout le monde, on va avoir une énorme mission de reconstruction de la e-réputation.
Ouais.
Nous, les clients, c'est vraiment quelque chose qu'on prend à cœur depuis le début. C'est plutôt Raph qui gère cette partie. Et pour le coup, on fonctionne bien parce qu'on est très proche de nos clients, qu'on est hyper fair, qu'on n'essaye pas de leur mettre à l'envers. Quand il y a un pot qui est pas aux attentes du client, on renvoie un pot. On n'est vraiment pas une marque qui veut se faire du blé coûte que coûte sur son consommateur. Donc, je crois qu'on est conscient de la mission qui arrive, qui va être d'appeler tous les clients mécontents, peut-être de renvoyer un pot de sirop d'acone à tous les clients qui ont souhaité se faire rembourser, parce qu'il y en a.
Et ça, vous l'avez prévu dans le budget? Ça se prévoit dans un budget?
C'est compliqué de le prévoir dans un budget, mais c'est pas des sommes qui sont énormes. C'est pas des sommes qui sont énormes, c'est quand même 600 commandes. Donc, c'est un billet, je sais pas moi, c'est un billet de 5000 balles. Mais c'est un billet qui est nécessaire, important, parce qu'il y a de la déception. Et en fait, ce dont on s'est toujours rendu compte, c'est qu'un client mécontent que tu arrives à retourner, derrière, ça devient ton meilleur ambassadeur. Et au-delà du produit, l'expérience client, c'est ce qui compte le plus. On échoue tous à certains moments. Et du coup, là, nous, on est dans une situation, on va dire, un peu d'échec, puisqu'on n'arrive pas à livrer. Mais par contre, il faut s'en rendre compte et essayer d'aller repêcher le client, même si ça coûte un peu d'argent.
Il y a un point aussi sur lequel tu dois travailler. Tu m'as dit, alors, il faut que j'apprenne à célébrer un peu plus.
Ouais.
Il y a un autre point, c'est sur le personal branding.
Ouais.
Il y a 7 mois, tu as fait un post LinkedIn où tu disais, je vais essayer de poster 1 à 2 fois par semaine.
Ouais.
Mais tu sais que rien ne m'échappe. Donc,
t'es bon.
Et tu disais, il faut que je me mette un coup de pied au cul et que je poste beaucoup plus. Parce qu'à chaque fois que j'ai une bonne idée de post, je procrastine. On en est où 7 mois après?
Ouais, je procrastine et je suis un grand pudique. Donc j'essaye de m'inspirer beaucoup de ce que fait Raph, parce que Raph est très bonne là-dessus. Mais j'étais pas trop mal sur le poste par semaine. J'étais pas trop mal avant Kevma. J'avais mon planning de poste qui était prévu pour 3 semaines après. Comme je te l'ai dit avant, j'ai perdu mon papa 6 jours après la diffusion de Kevma. Donc ça a été 3 semaines compliquées. Et du coup, on en est où? On en est dans une phase où ça fait 1 mois et demi que j'ai pas posté, parce que aujourd'hui, je me dis que je vais être très transparent avec toi et c'est ma problématique du moment. J'ai un poste qui est prêt parce que, en fait, je veux recommencer à poster, mais je ne m'imagine pas poster sans parler de ce qui m'est arrivé. mais je suis un peu dans une contradiction où je me dis, parler de du décès de mon papa sur LinkedIn, est-ce que c'est l'endroit pour ? Malgré tout, si je ne le fais pas, je vais avoir l'impression qu'en fait, c'est comme si rien ne s'était passé. Donc, mon post est prêt, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton publier, et ça fait 10 jours que qu'il faut que j'appuie sur le bouton publier, parce que je suis impudique, parce que c'est pas que je cache mes émotions, mais en tout cas, j'évite de tout mêler, même si c'est une grande peine, une grande déception, parce que mon père est quelqu'un qui m'a beaucoup, 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 beaucoup inspiré. Donc je pense que je vais le faire parce que c'est plutôt un hommage. Il faut que je passe cette étape. Ouais, ça sera peut-être ce soir ou demain matin.
Et quand il a vu ton évolution ces derniers, enfin, est-ce qu'il t'en a parlé un peu de ton évolution, de comment il t'a vu évoluer, grandir? Parce que t'es devenu un vrai homme, tu vois, au fil des années.
Ouais, je le voyais, mon père, il disait pas grand-chose, mais tout était dans le regard. Donc, il était hyper fier de ce qu'on faisait avec Raph. Effectivement, ce qui est délicat dans cette situation, c'est que c'est le meilleur ami de Thierry. Raph avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attachement pour lui, et à chaque fois qu'on parlait de Diakon & Co, mon père était jamais loin. Je suis vraiment content qu'il ait vu qu'il veut être mon associé, parce qu'il était fier de ça, et il était fier de tout ce qu'on construit. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'il disait. Il en parlait à ma mère potentiellement, et ma mère me le dit aujourd'hui. mais tout était dans le regard et dans ses actions. Et il s'intéressait beaucoup à ce qu'on faisait. Il nous conseillait beaucoup, 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 beaucoup. Parce que lui est entrepreneur aussi, et il a monté plein de boîtes. Donc voilà.
Bah en tout cas, je suis assez touché que tu puisses m'en parler.
Ouais.
C'est jamais des sujets faciles à évoquer. C'est vrai que sur le podcast, on parle beaucoup de business, d'argent. Mais sauf qu'un entrepreneur, c'est plus que ça.
Ouais.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins, qui forcément a aussi des coups durs. Et oui, je comprends, tu parles de pudeur. Mais c'est aussi permettre de comprendre parfois un peu plus, tu vois, les choses.
Ouais.
Comprendre un peu plus les combats que tu mènes. Les combats pour Thierry, le diabète, tu vois, c'est des choses qui te tiennent à cœur. Parce que Thierry, depuis tout petit, tu vois qu'il a un diabète. Et justement, t'as essayé de trouver des solutions avec lui pour proposer ce sirop Diakon.
Ouais.
Et des Thierry, il y en a partout en France, tu vois. Et donc, oui, ça a du sens, tu vois, de connaître l'envers du décor de chaque entrepreneur. Et je suis content de pouvoir partager un peu plus que juste des chiffres, parfois, sur ce qui vous anime, en tout cas. J'ai deux phrases pour toi. Tu vas me dire laquelle tu préfères.
Ouais.
C'est « Do things that don't scale » ou « Never give up ». Laquelle te parle le plus ?
Ouais, « Never give up », sans hésiter. De toute façon, never give up dans toute la vie. Sinon, en fait, tu fais rien, quoi. Et du coup, moi, je le dis souvent, je suis très attaché au mot faire. Fais des choses, mais never give up, n'abandonne jamais. Tu vas te prendre des claques, relève-toi, apprends. Et en fait, tout ça est une source d'apprentissage et d'évolution et de montée en compétence qui est exceptionnelle. Après, do things that don't scale... Pourquoi pas, mais en fait ça dépend ce que tu recherches. Nous, on avait envie d'aller vite et on aurait pu construire cette boîte sur un modèle PME, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Peut-être qu'on sait pas le faire et du coup on avait cette volonté d'aller vite. On n'abandonne pas, on se prend des claques, on s'en prend des grosses et plus t'avances, de toute façon, plus les claques que tu prends ont aussi un impact, parce que plus les choses
deviennent plus importantes.
Voilà, on de plus en plus importantes. Demain, si on doit livrer 500 tonnes à un industriel et qu'il y a un hic, ça sera des gros, gros, gros enjeux également. Donc non, clairement, never give up sans hésiter.
Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que les gens ne voient pas, puisqu'on est sur de l'audio. Alors, je suis venu à moitié pieds nus.
Ouais,
donc, j'ai une chaussure, une chaussette.
C'est un style.
Voilà, mais c'est un peu le never give up aussi. Marathon, voilà, que j'ai couru donc le 7 avril.
3h12, messieurs, dames.
3h12, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal
quand même. Ça commence à avancer. Et ouais, j'ai couru 30 km avec des ampoules.
Sympa.
Et donc, à la fin, mes pieds en sang, assez compliqué. Et donc, n'abandonnez jamais, tu vois, ça, c'est vraiment une phrase. À la toute fin, je me suis dit, mais attends, j'ai fait ça, je ne peux plus jamais abandonner dans ma vie.
Ah, t'as dû souffrir.
Ouais, un petit peu quand même. Mais surtout dans la côte de Boulogne, tu vois. Mais j'avais un pote qui a fait du 30e au 40e avec moi, il était là, vas-y, allez, avance, avance. Je lui fais, mais je peux pas, je peux pas, tu vois. Mais never give up, mais vraiment, cette phrase, on la gardera tout le temps.
Ouais.
Donc, je n'abandonnerai plus jamais, et je sais que toi non plus.
Clairement.
Je ne sais que toi non plus. Je crois qu'au départ, vous étiez appelé à un moment June, puis Yancy. Yakonenko.
Ouais.
Comment on trouve le bon nom?
C'est compliqué de trouver un nom. Il y a plein de boîtes qui font ça. Est-ce que c'est bien, pas bien? J'en sais rien. Nous, on s'est appelé June. On aimait bien June, mais on s'est pris un procès, donc on n'avait pas le choix. On a dû changer.
Une marque de couche.
Ouais, exactement. Mais bon, ce qui est pas si grave. En fait, ça, c'est arrivé très tôt, donc on avait très peu d'investissement. Mais du coup, on a un peu dû changer en panique. Donc on a changé effectivement pour Yancy. On n'était pas hyper satisfait derrière le storytelling de Yancy. Yancy, ça correspondait aussi plus à l'idée de boîte qu'on voulait faire avant de se spécialiser sur le sirop d'Yakon. Et donc, Yakon & Co. est arrivé de manière assez naturelle. Parce qu'en fait, on a un enjeu avec le sirop d'Yakon, c'est qu'il faut le démocratiser. Et ça, c'est pas simple. Et donc, si tu dois expliquer pourquoi tu t'appelles Yancy, dire que tu fais du sirop d'Yakon et ensuite expliquer pourquoi tu fais du sirop d'Yakon, bah déjà t'as expliqué trois choses, donc tu perds la personne qui est en face de toi. Alors que Yakon & Co, c'est hyper simple, ça aide aussi pour la mémorisation du mot sirop de Yakon, parce que nous c'est ça qui nous importe, c'est que le mot sirop de Yakon soit dans toutes les bouches et que le pot soit dans tous les placards. Et le fait de s'appeler Yakon & Co nous permet aussi d'avoir une ambition internationale tout de suite et d'être dans une dynamique de collaboration aussi avec d'autres boîtes.
Ouais.
On va sortir pas mal de produits là qui sont à base de sirop d'Yakon et potentiellement on peut imaginer des collabs avec le Enco, tu vois, qui est assez dans End, une autre marque, End, toute la communauté qui nous suit et tous nos clients qui nous suivent depuis le début. Donc il y a cette idée de rassembler dans le Enco qui est assez sympa.
Vous êtes là pour rassembler, vous êtes là pour embarquer, conscientiser aussi, tu disais, ça c'est vraiment hyper important. Je sais pas si t'as vu le documentaire Netflix qui est sur les zones bleues.
J'ai pas vu.
Qui est assez incroyable.
Ouais.
Assez incroyable parce qu'il te fait réfléchir. En fait, c'est le reportage s'intéresse à tous les centenaires dans le monde.
Okay.
Tu vois, il y a plein de petits endroits, des zones bleues, entre guillemets, où il y a beaucoup de centenaires au mètre carré. Et il y a un conseil dedans qui est « eat wisely ». Donc, manger raisonnablement. Tu vois, et je trouve hyper intéressant et qui avait beaucoup de sens avec l'épisode qu'on est en train de faire aujourd'hui. Toi, ton alimentation, tu la surveilles depuis longtemps, tu disais?
Je sais pas si je la surveille. Je crois que c'est un peu ancré au fond de moi. J'ai envie de quelque chose, on va dire que je me prive pas trop, mais j'ai pas de cravings, tu vois. J'ai pas de « ouah, là, j'ai envie d'un McDo. Ouah, là, j'ai envie de me péter le bide avec un gros kebab. » J'ai pas trop ça. Effectivement, c'est de la raison, hein. Donc, et tout ça, c'est ancré au plus profond de moi-même. Je mange à ma guise, je suis un gourmand, donc j'aime manger des choses qui me font plaisir. Mais par contre, j'ai aussi envie de prendre soin de moi, et je suis conscient que pour prendre soin de moi, il y a telle et telle chose à bannir et telle et telle chose à prioriser. Parfois, je suis dans de meilleures périodes que d'autres, et donc parfois, je suis aussi meilleur sur mon alimentation. Mais il ne faut pas se fouetter, il faut une fois de plus avoir cette capacité de recul. Et puis pouvoir adapter sur une période qui suit.
Ce qui veut dire qu'être entrepreneur, finalement, c'est une mentalité de sportif de haut niveau ?
Ouais, être entrepreneur, c'est une mentalité de sportif de haut niveau, parce que rien n'est simple. Et pour le coup, on voit souvent la partie émergée de l'iceberg, ce qui pousse plein de gens à être entrepreneur, et moi je trouve ça ouf, monter des boîtes. J'avais un débat avec un pote qui critiquait un peu qui veut être mon associé, en disant « oui, mais du coup, tout le monde pense que c'est facile et tout le monde entreprend ». C'est pas grave, c'est trop bien que les gens entreprennent. Et au pire, ils se prennent une claque et au moins, ils auront appris et ils sauront que c'est fait pour eux parce qu'ils auront envie d'en prendre une deuxième de claque et donc ils vont vers un deuxième projet ou pas, où ça va créer des projets qui sont incroyables. Et au pire, ça marche pas, c'est pas fait pour eux, mais au moins, ils sauront, ils seront pas dans l'ignorance. Il y a des grosses phases de succès. Et pour le coup, ça, tu peux le comparer à un sportif de haut niveau, c'est qu'il y a des phases où tout est incroyable, t'as le mojo, tout va bien, les stocks suivent, etc., etc. Et d'autres phases où ça va pas, et donc il faut se remettre en question perpétuellement, vraiment, t'endors pas la nuit, hein. C'est matin, midi, soir, le soir avant de t'endormir, tu penses à ça, le matin, quand tu te réveilles, tu penses à ça. Mais du coup, ce qui fait que tu progresses constamment, 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 et j'ai appris en 2 ans et demi comme... j'aurais pas appris, je pense, en 10-15 ans de carrière en tant que salarié dans une boîte où, du coup, t'es quand même beaucoup plus spécialisé.
Un sport de haut niveau dans lequel tu n'es pas seul et t'as une belle équipe autour de toi, donc forcément tous les gens qui vous accompagnent. Raph, Thierry, est-ce qu'il y a des choses que tu leur dis pas assez au quotidien ?
Ouais, que je suis fier d'eux, je pense. Que je suis fier d'eux, que je suis fier de tout ce qu'on fait. Parce que ce soit sans Raph ou que ce soit sans Thierry, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et du coup, ça, on se le dit très peu tous les trois. Parce que je pense qu'il y a une confiance qui est à toute épreuve. Je pense qu'il y a un lien qui est à toute épreuve entre nous trois. Mais ce qui fait qu'effectivement, on se dit pas forcément assez, bah putain, je suis fier de toi. Et c'est important. Ouais, je pense que je dirais ça.
Une fierté que tu avais aussi, c'était sur LinkedIn, pareil. Bon, je suis allé piocher un peu. Tu disais quelle fierté de recruter mon premier CDI.
Ouais. Ouais, moi je suis un team player, moi j'aime les sports d'équipe. La première année, on l'a fait où on n'avait pas d'employé et j'étais chiant au bureau. mais Raph me disait t'es chiant quoi, t'es pas content d'être là, j'ai l'impression, t'es de mauvaise humeur, t'es un peu irritable. Dès qu'on a commencé à construire une équipe,
il me fallait
du monde, ouais, bah ouais, parce que t'arrives le matin, t'as du monde, ça se marre, potentiellement ça va boire un verre ensemble le soir et du coup tu crées aussi d'autres types de relations. Donc ouais, c'est une fierté de construire des équipes et c'est une fierté de voir le lien qu'il peut y avoir aussi entre l'équipe de Vichy et l'équipe de Paris, où c'est deux types de fonctions qui n'ont rien à voir, mais où dès qu'il y a un coup de main à donner au niveau de la prod, bah, toute l'équipe de Paris potentiellement descend pendant 3 jours pour faire des cartons, pour faire de la prod, enfin juste pour montrer qu'ils sont là. Et c'était quelque chose auquel je tenais vraiment, c'est de créer un lien entre les deux entités et c'est vraiment le cas et ça c'est grâce aux équipes.
Le lien entre Vichy et Paris, là j'ai l'impression qu'on va refaire une petite boucle avec le début de l'épisode. Forcément t'as des copains depuis ton enfance qui étaient à Châtel-Montagne avec toi. Comment ils voient ton évolution aussi, parce que forcément, je pense qu'il y en a qui sont restés à Châtel-Montagne.
Et d'autres qui
te voient, donc qui viennent m'associer, qui te voient la télé sur M6, qui te voient lever des millions d'euros. Comment ils te voient? Est-ce que tu te prends des réflexions des fois dans la tête?
Pas du tout. C'était un peu une appréhension au début, et en fait, pas du tout, parce que je crois que j'ai pas changé. Et c'est toujours mes potes d'enfance, et je suis toujours le même quand je suis avec eux. Et j'aime toujours autant passer du temps avec eux. Quand je rentre à Vichy, c'est un vrai plaisir, et c'est du vrai temps qualitatif pour moi dont j'ai besoin, et je crois que j'en aurai toujours besoin. Donc... vraiment pas. La seule pression que j'ai, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent que je les embauche. et j'essaye de pas trop le faire parce que pas trop envie de mélanger des amitiés avec des relations professionnelles. Mais non, tu vois, je pars en vacances avec 5 d'entre eux la semaine prochaine. Et la majorité, je pense que ce sera mes témoins de mariage. Enfin, ça reste mes potes d'enfance à jamais, quoi. Moi, je suis quelqu'un d'assez fidèle au niveau relation. Et non, on kiffe toujours autant. Je pense qu'ils sont fiers de moi. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de choses comme ça. Ils sont plutôt contents.
Et donc, si je remonte dans le temps, pour conclure ce bel épisode, on se retrouve là, t'as 5-6 ans, tu fais de la luge avec tes copains à Châtel-Montagne.
Ouais.
Est-ce que ce petit Clément, t'aimerais lui dire quelque chose?
Je connais cette question.
C'est la fameuse question de fin, tu vois, toujours. Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner à tout petit toi?
Est-ce qu'il y a un conseil
Un conseil, une phrase, une chose, mais c'est même pas un conseil, hein, tu peux dire ce que tu veux.
Ouais, crois encore plus en toi, je crois. Crois encore plus en toi et essaye de faire des choses encore plus folles, peut-être.
T'as pas assez cru en toi?
Je pense que je me suis mis des petites barrières à un moment donné. Je me les mets beaucoup moins. Mais ouais, je pense que je me suis mis des petites barrières à un moment donné, notamment dans mes études, où effectivement, j'ai plutôt préféré faire une école de communication plutôt qu'une belle école de commerce. Après, je me suis toujours dit que de toute façon, école ou pas, le CV que tu te construis, c'est en fait surtout dans la carrière pro et surtout qui tu es. Voilà, je pense que c'est ce que je me dirais pour... peut-être essayer de faire des choses encore un peu plus grandes, même si c'est déjà assez ouf ce qu'on fait. Tu vois, jamais satisfait, c'est...
L'histoire d'un polyvalent jamais satisfait. Merci, en tout cas, franchement, Clément,
avec
pour
plaisir.
Cet épisode. C'était vraiment sympa. J'en ai découvert encore plus sur qui tu étais, sur la filière Yacon. Voilà.
Ouais.
Je pense que si jamais un jour je pète un plomb et j'arrête la com, je pars élever du Yacon au Pérou. Ça, je pense que c'est bon. Vous avez déjà quelqu'un qui bossera là-bas. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé dire ou que tu n'as pas dit pendant cet épisode?
Non, c'est hyper complet. Bon, je suis assez spontané, je prépare pas trop ce genre d'entretien, donc je suis assez spontané dans ce que j'ai à dire. Pas trop de... Non. pas d'idée en tête.
Parfait. La prochaine fois qu'on se revoit, du coup, on se fait une petite tarte citron meringue.
Trop chaud.
Très bien.
Il va falloir que je m'entraîne. Hein. Putain, j'ai pas le droit à l'erreur.
C'est vrai. C'est que je sais monter les blancs en neige à la main.
Ah ouais, moi aussi, pas de robot, toujours à la main les blancs en neige. Ah,
mais pas... Ouais, mais j'avais raté une fois. Donc
on recommencera.
Merci Clément, à bientôt.
Ciao, merci.